quatrième épisode de ma série consacrée à l'année 1964. Au programme, un drame sur le Tour de France, 9 morts, dont 3 enfants. France Gall qui cartonne à 17 ans à peine. L'arrestation de Joe le chimiste, grand trafiquant corse de la French Connection. Les Américains qui s'engagent dans la guerre au Vietnam. Et Brigitte Bardot qui fête ses 30 ans.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1964.
En fouillant dans les archives d'Europe numéro 1, j'ai retrouvé ce terrible épisode du Tour de France 1964. Le 11 juillet, les coureurs vont de Bordeaux à Brive, en Corrèze. Et comme d'habitude, il y a beaucoup de monde sur la route du Tour. Au niveau du village de Port-de-Couze en Dordogne, un camionneur rate un virage, il fonce sur la foule et entraîne avec lui une quarantaine de spectateurs dans le canal de la Dordogne.
On était à Vache, là-bas, sur le bord de la banquette. Tout d'un coup, on a vu le camion qui arrivait. Il a sauté sur le parapet, les gens ont plongé, tous à la fois. Le mur du pont et le camion, tout à la fois, on a tout vu.
Il y a beaucoup de personnes, vous pensez, qui ont été
projetées à l'eau? On ne sait pas exactement, on est venu.
Mais vous en avez vu, on en a ressorti déjà.
On en a ressorti, oui, il y a eu des morts, des blessés, de tout, mais c'est terrible.
Vous avez été le premier à plonger dans le canal.
Hein. Oui.
Qu'est-ce que vous avez trouvé?
J'ai trouvé en premier lieu une main sous une roue. J'ai pas pu la dégager parce qu'il y avait de la vase et des algues. Et à l'arrière, il y avait un corps, mais j'ai pas vu ce que c'était parce que j'y voyais pas, j'avais pas de lunettes, j'avais rien.
Et maintenant, des hommes grenouilles sont en
des hommes grenouilles et puis un scaphandrier cherchent. Ils ont trouvé 3 corps déjà, dont ceux que j'avais trouvés qu'ils ont dégagés.
Ils sont bloqués alors sous le camion?
Ah, ils étaient bloqués sous la roue avant du véhicule. Mais maintenant, c'est fini, ils les ont enlevés. Alors on attend que ce soit fini pour retirer le camion. Et voir s'il n'y en a pas dessous.
La rédaction d'Europe numéro 1 joint au téléphone l'hôpital de Bergerin.
On a eu une douzaine de blessés et 3 morts.
Les blessés sont gravement atteints?
Bien, vous savez, il y en a, oui, quand même assez. Hein. Là, je viens de voir vers la salle d'opération, il y a une fillette à qui on vient de donner l'extrême onction. Encore, il y en a une autre qui ne va pas très bien. Enfin, pour l'instant, on ne peut pas dire exactement le nombre des morts et des blessés, oui. Enfin, je vous dis, on nous a amené 3 morts, hein, carrément, à l'entrée. Et puis alors une douzaine de blessés.
Il y a des enfants?
Il y a des enfants, oui, pas mal, oui.
Sur le nombre de blessés, il y a combien d'enfants?
Oh, il y en a bien la moitié facilement. Et puis alors il y a là-bas, il y a encore, je crois, des morts, là, la Linde, enfin à Couze, au lieu où a eu l'accident, ils ont fait une chapelle ardente là-bas.
Le bilan est effroyable. 9 morts, dont 3 enfants.
Vous êtes blessé à la jambe, je vois.
Oui.
Comment c'est arrivé?
C'est le camion. Il allait bien vite. Il a voulu tourner, alors le camion s'est renversé, il a été à l'eau.
Et vous, vous avez été accroché dans le camion, non?
Oui. Il m'a poussé dans le là-bas et je me suis retenu.
Vous êtes retenu après quoi?
Après une branche d'acacia.
Et alors, vous étiez là avec votre papa, votre maman, vos petits frères?
Oui.
Et alors, votre papa et votre maman, ils sont où?
Ils sont à l'hôpital, mais ma mère a rien eu.
Et votre papa?
Il a une jambe cassée.
Et vos deux petites sœurs?
Joël a un trou là, elle saignait là.
À la tête?
Oui.
Et puis l'autre?
Et Michel, elle saignait de la bouche, là.
Vous avez quel âge, vous?
J'ai 10 ans.
Et vos petites sœurs?
Joël a 11 ans, Michel a 9 ans.
Et alors, vous avez un autre petit frère là qui était aussi sur la course?
Oui.
Il n'a rien eu, lui?
Non, il a passé sur le camion.
Et il n'a rien eu?
Et il n'a rien eu.
Ce gamin est un miraculé. Et Jacques Godet, évidemment, le patron du Tour, est sous le choc.
Nous sommes bouleversés, nous sommes peinés comme on ne peut pas l'être. Il est évident que c'est l'objet du Tour de France d'apporter au public une manifestation gaie, joyeuse, heureuse. Un exemple d'effort, mais c'est évidemment le contraire que nous avons. Et aujourd'hui, l'accident se situe hors des limites de la course. Néanmoins, il a eu lieu. Il a eu lieu parce que le Tour de France passait sur une route. Et cela nous chavire. Et ça nous peine profondément. Et nous disons à tous ces gens, à toutes ces familles qui ont été si durement, cruellement touchées, notre peine infinie.
En 1964, la star du peloton, c'est le Français Jacques Anquetil. Il a déjà 4 victoires au Tour de France dans son escarcelle. Et lui aussi a assisté au drame.
Et qu'avez-vous vu? Ce que j'ai vu, on était un peu affolés parce que j'ai vu une jeune fille là qui m'appelait en me disant que sa maman était morte. Alors je ne savais pas si je devais aller vers elle pour la consoler ou quoi. Enfin, j'étais un peu perdu, disons. Et qu'ont fait les coureurs? Tout le monde a regardé, on a observé une minute de silence, puis nous sommes repartis après.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
C'était Jean Ferrat avec La Montagne en 1964.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1964.
Je revisite avec vous cette semaine l'année 1964. Et cette année-là, les flics marseillais sont sur un très gros coup. En octobre 64, les policiers de la police judiciaire de Marseille, grimés en chasseurs du coin, s'intéressent dans l'arrière-pays à un éleveur de cochons, Joseph Cesari, 50 ans. Ça fait 20 ans que la police française essaye de coincer ce Corse qui n'est pas du tout éleveur. Joe est un membre de la French Connection. C'est une organisation mafieuse française qui envoie de l'héroïne fabriquée à Marseille ou en Corse, en Amérique. Son surnom, c'est Joe le chimiste. Il est capable de fabriquer de l'héroïne pure à 98%, alors que ses concurrents atteignent péniblement 70%. Le 7 octobre 1964, la PJ de Marseille décide de l'interpeller. Grimé en chasseur, donc, des flics frappent à sa porte.
Bonjour, nous sommes chasseurs et nous avons un camarade qui a été touché par une balle. Est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? Eh bien sûr, entrez chez moi. On ne refuse jamais l'hospitalité à un homme blessé, surtout par balle. Oh les mains!
Dans la bâtisse, Jean le chimiste ainsi que 5 complices sont arrêtés. Et le patron de la police judiciaire fait le coq.
L'affaire que nous avons découverte hier est la plus importante jamais traitée dans le monde en ce qui concerne le trafic de la drogue.
À quelle heure avez-vous investi les lieux ?
Hier matin, très tôt, nous avons pu l'investir sans difficulté, car nous avons bénéficié de l'effet de surprise. Une quinzaine de mes fonctionnaires investissaient les abords, avec discrétion bien sûr, et nous avons pu pénétrer dans les lieux sans que les occupants s'en soient rendus compte. Deux de mes fonctionnaires étaient déguisés en inoffensif chasseur, ce qui n'a pas attiré l'attention.
Vous avez eu une assez grosse surprise, je crois, à l'intérieur de la villa qui était parfaitement aménagée.
Oui, nous y avons découvert ce laboratoire qui était en réalité une véritable usine, aménagée d'une façon absolument fonctionnelle. Ce laboratoire comprenait 4 pièces, comprenant chacune l'outillage convenant à sa destination. Et en somme, en passant d'une pièce à l'autre, on passait d'un stade à l'autre de la fabrication, de la transformation plutôt, de la morphine base en héroïne.
Pensez-vous que la filière des États-Unis pourrait être amputée de pas mal de membres?
Eh bien, elle sera en tout cas amputée de ses fournitures. Quant à être amputée de son monde, nous l'espérons bien.
Dans ce laboratoire, la police découvre 100 kilos d'héroïne pure et 100 kilos de morphine base. Valeur marchande, 5 millions de francs.
Le nommé Césari, Césari André Joseph, dit dit encore Monsieur Jean, c'était non seulement le chef de l'industrie, le chef du laboratoire, le chef de l'équipe que nous avons mise hors d'état de nuire, mais c'était également l'un des grands chefs du monde de la drogue. Sa villa à la Roseraie, qui est une très grande propriété, extrêmement luxueuse, est située à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la villa dans laquelle était installé le laboratoire, les deux villas étant situées de telle façon que de l'une à l'autre, on pouvait observer la jumelle ce qui se passait dans l'autre.
Quand seront-ils tous déférés au parquet ?
Ils le sont au moment même où je vous parle.
En 1964, la French Connection est puissante et elle est en pleine expansion. Chaque année, elle envoie plus de 2 tonnes de drogue aux États-Unis. Sur Europe numéro 1, un spécialiste du marché de la drogue explique ce phénomène qui est méconnu du grand public.
Vous êtes allé aux États-Unis. C'est aux États-Unis que le marché de la drogue est le plus important, paraît-il. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les États-Unis ? Comment ça se passe ? Est-ce que c'est vraiment, comme on l'entend, devenu assez commun ?
Assez commun, c'est peut-être un peu beaucoup dit. Enfin, il ne faut pas oublier que les États-Unis ont, je sais pas, 160 ou 170 millions d'habitants. Mais il est évident que c'est dans ce pays que le problème de la drogue est le plus important, aussi bien socialement que sur le plan médical et aussi sur le plan de la criminalité. Je crois que les chiffres actuels indiquent qu'il y a environ un habitant sur 2000 ou 2005 qui est de près ou de loin concerné par le problème de drogue.
Quels sont, selon vous, à part les États-Unis, les pays qui font le plus, disons, plaque tournante sur le marché de la drogue ?
Eh bien, il semble que les pays méditerranéens d'Europe sont les mieux placés, les mieux situés, si vous voulez, pour constituer une plaque tournante entre le pays d'origine, qui peut être le Moyen-Orient ou l'Extrême-Orient, et les États-Unis, qui, encore un coup, constituent le marché principal. L'Italie et la France, et surtout le midi de la France, semblent avoir eu justement avoir été mis en vedette récemment. Étant donné que vous avez un port important à Marseille, c'est la seule raison, je crois, enfin, qui permet ça.
Une question de transport uniquement, une question de port. Hein.
Oui, c'est-à-dire de ne pas montrer des cargaisons de drogue dans des camions entre Marseille et Paris, ce ne serait pas très pratique. Enfin, il vaut mieux que ça reste aussi limité que possible dans l'espace.
Joseph Cesari sera condamné l'année suivante à 7 ans de prison ferme. Et une fois sorti, Joe le chimiste replongera. Et incarcéré à nouveau, il finira par se suicider en prison.
1964, Ondelat raconte sur Europe 1.
Voici une révélation musicale de l'année 1964. Elle est âgée de 17 ans, elle ne va déjà plus à l'école, elle a tout quitté à 15 ans pour se consacrer à sa carrière de chanteuse. Son nom, Isabelle Gall, dite France Gall.
Il est très timide avec ses copains, mais avec les filles, il ne craint plus rien. Chaque fois qu'on danse, il nous snobe un peu, et dans ses bras, oui dans ses bras, il nous tient des propos. Comme ça, ne sois pas si bête, 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 serre-moi plus fort et plus fort encore. Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi, car tu es encore une petite fille pour moi.
En 1964, en quelques semaines seulement, France Gall rejoint le club des chanteurs et chanteuses yéyés à succès. C'est une ascension fulgurante qui s'explique sans doute par son originalité. Elle ne reprend pas en français des succès anglo-saxons. Au contraire, elle interprète des chansons de paroliers aguerris, comme son père, Robert Gall, qui vient d'écrire La Mama pour Charles Aznavour, et d'autres paroliers comme Pierre Delanoë ou Serge Gainsbourg. D'ailleurs, c'est lui qui lui a écrit « Ne sois pas si bête », mais aussi « N'écoute pas les idoles ».
Écoute pas les idoles et
Avec N'écoute pas les idoles, Gainsbourg signe son deuxième tube pour France Gall.
Si je ne me trompe pas, il n'y a pas tellement longtemps, Serge, que tu écris, parce que c'est une chanson que chante France Gall, N'écoute pas les idoles, qui est de Serge Gainsbourg, ça, pour le cas où vous ne le sauriez pas. Tu n'écrivais pas de chansons de ce style avant?
Non.
Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Que j'ai rajeuni. Mais il se marre, lui. Tu étais dans la séance, toi. Il est marrant.
Gondry, oui.
Aussi, je rajeunis.
Il rajeunit.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Quoi, ça veut dire que... moi, je me suis intéressé à France Gall parce que je trouve qu'elle chante très joliment.
Oui.
Quoi? Bah, ils sont terribles, ces types. Vraiment, infect.
C'est la scène gaieté chez vous.
Et non, puis, j'ai fait ça comme un exercice de style.
À la fin de l'année 1964, France Gall dépasse le million de disques vendus. Et elle fait jeu égal avec Johnny, avec Eddie Mitchell, avec Sylvie Vartan, avec Sheila ou avec Françoise Hardy.
Quel âge avez-vous?
7 ans et demi.
Et 1 million de disques?
C'est pas mal, oui.
Ça vous paraît fantastique?
Ça me paraît énorme parce que comme je sortais de l'école, c'est quand même 1 an et demi que j'ai quitté l'école et 1 an et demi que je chante, donc ça fait pas longtemps.
Vous regrettez l'école?
Je le regrette d'une certaine façon, c'est-à-dire je le regrette surtout sur le point de vue camaraderie, amis.
Parce que dans ce nouveau métier, vous n'avez pas de camarades?
Je n'ai pas d'amis, non. Je dîne souvent avec Françoise, je connais mal Sylvie, je connais mal Sheila, mais je les fréquente pour ainsi dire pas, je fréquente aucune personne du métier, non.
Vous n'êtes pas timide, pas du tout?
Je suis très timide, mais je ne le montre jamais.
Vous rougissez facilement, vous êtes blonde?
Très, très, très facilement, oui.
Au début, lorsque vous avez dit, tiens, je vais essayer de chanter, vous comptiez chanter dans ce sens-là?
C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver un style, enfin, il faut pas que ce soit Sheila, il faut pas que ce soit Sylvie ni Françoise, il faut trouver autre chose, et c'est assez difficile.
Moi, ce que je voulais savoir, c'est la place que vous tenez et la place que vous aimeriez tenir. Justement.
De toute façon, j'ai l'intention de me marier, bien sûr, et d'avoir des enfants après la chanson.
En 1964, France Gall truste la première place du hit parade avec une chanson écrite par son père et destinée au jeune public. Sacré Charlemagne.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne.
C'est l'un des plus grands succès de la carrière de France Gall, mais elle n'a jamais aimé ce morceau. Elle lui a toujours préféré ce tube signé Serge Gainsbourg, « Laisse tomber les filles ». Voilà ce qu'on écoutait à fond les ballons en 1964. Laisse tomber les filles, chanson écrite par Serge Gainsbourg et interprétée par la Lolita pop la plus connue de l'Hexagone, France Gall. Ça vous remélange pour un énorme carton.
L'année 1964.
Je vous raconte l'année 1964 et cette année-là, les États-Unis vivent un tournant. En 1964, ça fait 9 ans que la guerre fait rage au Vietnam. Elle oppose le Nord, Hanoï, communiste, au Sud, Saïgon, soutenue économiquement et militairement par les États-Unis, mais sans implication de soldats américains. Pas encore. Car début août 1964, les États-Unis accusent le Viet Cong du Nord d'avoir attaqué deux de leurs navires. Le président américain Johnson menace de réagir. Il semble tout prêt d'engager des troupes américaines au Vietnam dans une guerre qui pourrait avoir des répercussions mondiales.
Je suis dans la salle de rédaction de WNEW, le grand poste de New York. Alan Walden, vous êtes mon confrère de la radio américaine. L'équipe de nuit dont vous êtes, car il est 7h du matin, achève son travail. Et je vous pose une question. Et peut-être parce qu'ils en sont plus proches que les Français, que les Parisiens, peut-être parce qu'ils battent chaque jour près de ce gratte-ciel ultra-moderne qui l'abrite sur les bords de l'East River, ils ont tous affirmé qu'ils espéraient beaucoup de l'Organisation des Nations Unies.
Les Nations Unies ne changeront rien à la détermination américaine. Et le 5 août 1964, le président Johnson annonce sa décision.
My fellow Americans, as President and Commander-in-Chief, it is my duty to the American people to report that renewed hostile actions...
Américains, mes concitoyens, en tant que président et commandant en chef, il est de mon devoir envers le peuple de lui rendre compte que les actions ennemies renouvelées contre des unités navales américaines stationnés en haute mer dans le golfe du Tonkin, m'ont obligé aujourd'hui à ordonner aux forces armées des États-Unis de répondre en conséquence. C'est le président Johnson que vous avez entendu. À 11h30 du soir, il s'est adressé à la nation par toutes les voies largement ouvertes de la radio et de la télévision des États-Unis. En effet, depuis 5h30 hier après-midi, 22h30 à Paris, le continent nord-américain est en état d'alerte. C'est l'heure à laquelle a été connue ici la seconde attaque nord-vietnamienne contre le destroyer Maddox et une autre unité de la flotte. Dès que la nouvelle a filtré, l'émotion a été extrêmement violente et perceptible à tous les échelons de la population. L'homme de la rue commente largement l'événement partout où il se trouve, depuis l'autobus et le métro jusque chez lui, et considère la crise qui vient de s'ouvrir comme la plus grave que la paix ait connue, plus grave même, pense-t-on partout, que la crise de Cuba. Ici New York, Georges Vicard, Europe numéro 1.
Les États-Unis entre en guerre sur le sol vietnamien. Il ne s'agit plus seulement de soutenir militairement le Sud, mais bien d'envoyer des soldats américains combattre au Vietnam. Sauf que les Amerloques, ils n'en veulent pas de cette guerre.
Je suis un Américain moyen. J'ai un magasin de peinture ici sur le 3e avenue. En tout en Amérique, personne ne veut la guerre et je ne peux pas croire que ce soit différent ni chez les Russes, ni chez les Chinois.
Je travaille en escargot, comme garçon. Personne ne sait. Ouais, je crois que ça s'arrangera. C'est assez grave maintenant, mais je pense que ça s'arrangera dans quelques jours.
Je suis citoyen américain. La situation, pour moi, point de vue, je crois que c'est très sérieux. Si les communistes ne rétrécirent pas, s'ils ne reculent pas, c'est trop.
Le conflit durera 10 ans. Les Américains perdront 60 000 hommes.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1964.
Je continue d'errer au cœur de l'année 1964. Et le 28 septembre 64, toute la presse veut marquer un anniversaire. Celui de la vedette mondiale Brigitte Bardot, qui fête ses 30 ans. Mais la Française qui tourne à Londres un film réalisé par Molinaro, une ravissante idole, rejette toutes les demandes d'interview. Mais Europe numéro 1 ne lâche pas l'affaire. Et la rédaction dépêche en Angleterre le plus coriace de ses reporters, Jacques Ourévitch. Et il a du bagou, Ourévitch. Et il arrive à convaincre l'impresario de Brigitte Bardot, Olga Horstig.
Bon, comme Brigitte vous connaît que ça s'est bien passé l'année dernière... Je vous donne 5 minutes avec elle.
5 minutes? Ah non, 5 minutes, ça va pas. Cet entretien est dans son intérêt. Enfin, je veux faire quelque chose de proche de la confession. Je veux vraiment la connaître. Je veux connaître sa vie, son rapport aux autres, à la célébrité, ses envies, ses angoisses, tout ça, quoi. En 5 minutes, c'est pas possible. Et voilà comment les 5 minutes glanées se transforment en 5 heures.
Quoi de changer en un an? Il y a une chose de changer. C'est que vous avez maintenant 30 ans.
Oh. Et oui.
Pourquoi la grimace? Agréable.
Parce que ça y est, je les ai, on n'en parle plus.
Vous entrez dans les thèmes.
On a fait une histoire de ces 30 ans terrible.
Bah, 30 ans, c'est une...
C'est une date. Mais enfin... je me sens pas tellement changée depuis l'année dernière, je dois dire.
Bon, je dois dire que moi, physiquement, a priori, je ne me trouve absolument pas changée. Mais non. Est-ce que vous avez conscience, par exemple, physiquement d'avoir changé?
Ah, physiquement, non. Bon, physiquement, je crois qu'on change par étapes. Ça vient pas au moment de vos 30 ans, ou de vos 40 ans, ou de vos 20 ans. Ça se passera... ça se passe à un moment, je crois, où physiquement, on doit changer d'un coup très fort.
Est-ce que vous vous regardez dans la glace le matin, par exemple, au lever?
Évidemment que je me regarde dans la glace. Quelle est la femme qui ne se regarde pas dans la glace? Citez-la, moi.
Avec un œil critique, vous vous regardez?
Mais qu'un œil habitué.
Vous connaissez, j'ose à peine le dire, les défauts qu'il peut y avoir dans votre silhouette?
Ah oui. Moi, je connais mes défauts, physiques et autres.
Restons sur le physique. Lorsque vous les voyez, vous dites ça évolue bien. Ça...
Non, j'estime que chaque chose doit évoluer et que... Eh bien, mon Dieu, je sais pas, moi. Il faut s'y faire, quoi. De toute façon, un jour, j'aurai un visage tout plein de rides. Eh bien, tout le monde en sera là, un jour ou l'autre. Il faut l'accepter, je crois que c'est une chose tout à fait normale. Enfin, pour le moment, de ce côté-là, ça va très bien.
Oui, pas de ride. Pas l'ombre d'une ride.
De ce côté-là, j'en ai pas.
L'entretien est revendu à la presse du monde entier. Et Jacques Ourevitch lance un genre. L'interview fleuve d'artistes dans lesquels on ne parle pas, ou presque, de son actualité.
Dites-moi, Brigitte, dans un certain nombre de vos films, surtout au début, vous vous êtes déshabillée, n'est-ce pas?
Ah oui, nettement.
Est-ce que vous êtes pudique en général dans la vie?
Oui, moi je suis assez pudique, mais je trouve que ça n'empêche pas... je trouve que la nudité n'est pas impudique.
Quand elle est belle, c'est vrai.
Ça dépend de avec quel œil on la regarde. C'est peut-être les spectateurs qui sont impudiques.
Quand on regarde Brigitte Bardot se déshabiller, on la regarde toujours avec le même œil.
Moi je ne sais pas, je trouve qu'on peut... Je trouve que tout est une façon d'interpréter les choses. Enfin, je me sentirais impudique, je ne le ferais pas.
Bon, en quelque sorte, si j'installe dans cette chambre une caméra, si je suis metteur en scène et si je vous dis déshabillez-vous...
Je le fais pas.
Et si j'enlève la caméra?
Je le fais pas non plus.
Eh bien alors?
Parce que...
Ça ne s'impose pas.
En ce moment, je crois pas que ça s'impose.
Là encore, il aurait beaucoup à dire. Mais en fait, lorsque dans un rôle au cinéma, on vous demande de vous déshabiller, vous acceptez pourquoi? Parce que ça colle avec le personnage, avec l'histoire?
Oui. Oui. Et puis, je sais pas pourquoi vous me parlez tout d'un coup de me déshabiller comme ça pendant une...
Non, parce que j'ai une question qui me brûle les lèvres. Il vous est déjà arrivé de revoir un de vos films?
Oui.
Donc quand vous êtes assise, dans le noir, dans une salle de spectacle, dans un fauteuil, habillée, et que vous vous voyez brusquement toute nue ou presque sur l'écran...
Oui.
Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu gênée?
Non, pas du tout.
C'est une autre.
Je dois être. Peut-être je suis anormale, vous me regardez avec des yeux ronds.
Non.
Moi, je me sens pas gênée du tout. D'abord, la Brigitte qui est sur l'écran n'a rien à voir avec la. Enfin, moi. Vous comprenez, je me regarde jouer comme je regarderais une autre actrice.
Au même moment, en 1964, Brigitte Bardot vit une idylle avec un musicien brésilien qui s'appelle Bob Zachary. Et elle l'accompagne dans un petit village de pêcheurs à 160 km de Rio de Janeiro, Búzios. Et grâce à Bébé, en 1964, ce tout petit village devient une destination à la mode, de renommée mondiale. Et d'ailleurs, à peine Bébé parti, les habitants de Búzios lui érigent une statue pour la remercier de ce fabuleux coup de projecteur. Et la promenade qui mène à la plage est baptisée Orla Bardo.
You really got me now. You got me so I can't sleep at night.
C'était The Kinks, qui connaissent le succès en 1964 avec You Really Got Me. Merci à Guillaume Maury, Julien Pichenet d'avoir farfouillé dans les archives pour moi. Réalisation signée Boris Paczynski. La suite de notre immersion dans l'année 1964, dans le cinquième épisode dont la traconte une année.
Raconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.